Nous lirons dans Matthieu. Alors, vous pouvez prendre dans vos Bibles, si vous voulez la même version que moi, le texte va être affiché. Matthieu au chapitre 19. C'est la rencontre de Jésus avec un homme, une rencontre de Jésus. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Un homme vint demander à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? » Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé tout cela, mais que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, en entendant cela, restèrent complètement ébahis. Ils se demandaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Jusqu'ici, notre lecture. Peut-on être trop riche pour suivre Jésus? C'est ce que semble dire notre texte. Nous avons ici la rencontre de Jésus avec un homme. Il est bien, ce petit gars. Il est jeune, il est riche. Quand on a à la fois la jeunesse et la richesse, les possibilités s'ouvrent. C'est un jeune qui a de l'avenir, des possibilités. Et au lieu de vivre ça égoïstement dans son coin, il vient vers Jésus parce qu'il a le désir de vivre mieux, de vivre bien. Je crois que c'est une personne tout à fait aimable, le genre de personne que notre société apprécie, jeune, riche, sans problème, volontaire. Et pourtant, tout ne se passe pas comme sur des roulettes avec Jésus. Nous avons là le récit d'une rencontre, et une rencontre, c'est un dialogue qui a eu lieu, et nous en avons ici le résumé. Il nous manque ce qui n'a pas été mis par écrit, le non-verbal, les hésitations, tout ce qui apporte la vie. Mais on en a l'essentiel, les idées importantes, et je vous propose de creuser un peu pour comprendre ce qui est dit. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? On a donc un homme qui va vers Jésus avec une demande. Il veut obtenir la vie éternelle. Ou, pour parler avec des synonymes, si on regarde la suite du texte, obtenir la vie éternelle, c'est entrer dans la vie, entrer dans le royaume des cieux, entrer dans le royaume de Dieu, être sauvé. Tout ça, c'est des synonymes qu'on retrouve dans le texte qu'on a lu. C'est une préoccupation pour lui. Il ne veut plus vivre au jour le jour, il veut viser plus grand, plus loin, voire plus loin. C'est bien. Et il vient vers Jésus parce qu'il croit que c'est un maître, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui va pouvoir lui expliquer, lui dire quoi faire. reconnaît que Jésus peut l'aider sur ce chemin. Je disais, il est a priori sympathique, ce petit gars. Et s'il arrivait dans une église, je pense qu'il a tout pour plaire. Mais Jésus l'accueille de façon tiède, voire froide. Au lieu de lui répondre directement, il va le titiller. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? On a un indice là avec cette question de Jésus que la démarche n'est pas entièrement bonne, que la question n'est pas celle qu'il faut poser. Mais bon, Jésus laisse cette phrase filée, il ne creuse pas et il continue en répondant à la question de son interlocuteur. Que faut-il faire de bon ? Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. En termes de bonté, il n'y a pas de maître, il n'y a que Dieu. Dieu seul est bon et il a donné à son peuple ses commandements. Il n'y a qu'à les suivre. On note quand même que Jésus joue sur le vocabulaire. L'homme vient parce qu'il veut avoir la vie éternelle et Jésus parle d'entrer dans la vie. L'homme veut faire ce qui est bon. Jésus parle d'être bon. Être parfait même, plus loin dans le texte. On sent le décalage. L'homme veut faire quelque chose pour obtenir quelque chose et posséder. Jésus indique qu'il faut être pour pouvoir entrer. La vie, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, être sauvé, ce n'est pas une vie éternelle qu'on possède, qu'on peut ranger dans un coin et ressortir comme un bonus, comme une extra-balle. C'est quelque chose d'extérieur, quelque chose qui est en Dieu, quelque chose dans lequel nous pouvons entrer si nous sommes invités. Et tout l'enseignement de Jésus, que Jésus montre à ce sujet, et je ne parle pas de ce passage, mais de tous les évangiles, c'est que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour après la mort. Mais ça commence dès aujourd'hui. Et pour y entrer, il ne s'agit pas de faire afin d'obtenir une récompense, mais il s'agit d'être. S'il y a quelque chose à changer, c'est l'homme lui-même. Il ne faut pas faire ce qui est bon, mais il faut devenir bon. Désirer les bonnes choses. Les faire non pas par obligation, mais parce qu'on le désire, parce que c'est ce que mon cœur souhaite. Mon ami semble dire Jésus, tu cherches au mauvais endroit. Mais bon, tu veux savoir ce que tu as à faire, observe les commandements. Lesquels ? Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que notre homme est un peu déçu. Alors, il pousse plus loin. Il vient voir Jésus, il se déplace, il fait preuve de bonne volonté. Et ce qu'il s'entend répondre, c'est « lis la Bible ». Enfin, c'est un peu anachronique. « Lis la loi et observe-la ». Mais la loi. La loi, c'est tellement vaste. Je ne sais pas si vous avez lu Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il y a des passages qui sont clairs, structurants, et puis après, il y a aussi plein de cas un peu tordus. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? Qu'est-ce que je fais dans quel autre cas ? Clairement, que faut-il faire ? Après tout, Jésus n'est-il pas maître ? Qu'il explique. Alors Jésus joue le jeu et il fait une sélection. Tu ne commettras pas de meurtre, tu tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignage, tu ne commettras pas de vol, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les cinq premiers, ils font partie des 10 commandements, classiques, les piliers. Et Jésus ajoute un autre commandement qui ne se trouve pas dans les 10 commandements, mais qui se trouve un peu plus loin dans la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu veux observer les commandements ? Il a l'air de dire, eh bien, prends déjà cela, ça fait un bon début. C'est déjà fait. J'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore ? Vraiment, il est bien ce petit gars. Non seulement il sert à s'approcher de Dieu, mais déjà, il a le souci de respecter la loi. C'est vrai quoi ? Il a tué personne, il n'a pas trompé sa femme, il n'a jamais menti sous serment, il n'a volé personne, ses parents ne manquent de rien. Et son prochain ? Ben, j'aime bien qu'on me laisse tranquille, alors je laisse les autres tranquilles. Mais en même temps, il sent qu'il lui manque quelque chose. Il sent qu'il lui manque quelque chose, et s'il vient vers Jésus, c'est qu'il va aller plus loin. Et quelque part, à ce point du dialogue, on découvre le vrai questionnement de cet homme. Il a cette vie globalement correcte où il ne fait de mal à personne, mais il a l'impression que ça ne suffit pas. Que faut-il faire de plus ? Alors ça, ce n'est pas écrit dans le récit qu'on a, mais je crois que Jésus ici a marqué une pause. Une pause pour laisser son interlocuteur penser à ce qu'il a dit. Pensez à là où il en est. Et cette pause, c'est une deuxième raison de penser qu'elle existe dans le dialogue, c'est que cette rencontre, un autre évangéliste en parle, c'est Marc au chapitre 10. Et à ce moment du dialogue, Marc dit que Jésus le regarda et l'aima. Jésus ressent une affection profonde pour cet homme qui est en recherche et qui met le doigt sur là où il doit avancer. En fait, l'homme commence à comprendre. Comprendre que la loi ne suffit pas, et c'est une des choses que Jésus est venu enseigner par sa venue sur terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez du sermon sur la montagne, ce grand discours de Jésus. Et il y a un moment où Jésus parle de la loi. Et il dit, il est écrit, tu ne commettras pas de meurtre, mais si tu te mets en colère contre ton frère ou si tu l'insultes, c'est comme si tu le tuais. Jésus dit, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère, mais si tu regardes quelqu'un avec désir, c'est comme si tu avais déjà commis dans ton cœur. Jésus dit, tu aimeras ton prochain, tu le sais, et tu penses que tu peux aimer ton prochain et détester ton ennemi, mais moi je te dis, aime ton ennemi. Et ailleurs que dans le sermon sur la montagne, il y a cette parabole très connue, très célèbre, du bon samaritain, où Jésus vient montrer que mon prochain, celui que j'imagine même pas, et que c'est lui qu'il faut que j'aime comme moi-même. Jésus est venu expliquer justement à ce jeune homme, à ceux qui se rendent compte que la loi ne suffit pas, qu'il y a besoin d'aller plus loin. Et voilà le point où on en est notre homme. Il commence à comprendre. Et en même temps, sa réponse montre qu'il n'a rien compris. Il n'a pas compris la gravité de son péché, puisqu'il pense avoir observé la loi. Il n'a pas compris de ce qui le sépare de Dieu, de l'état de son être. Il pense qu'il n'est pas loin, qu'il a fait tellement d'efforts pour observer la loi qu'il lui manque juste un truc en plus. Il y est presque. Alors Jésus lui donne le coup de grâce en lui faisant prendre conscience de là où il en est vraiment. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et le jeune homme s'en alla tout triste, nous dit notre texte, car il avait de nombreux biens. Je pense qu'il faut se laisser interpeller par cette conclusion. Il n'est pas écrit que le jeune homme est parti parce qu'il ne voulait pas faire ce que Jésus demandait, parce qu'il n'avait pas envie de se débarrasser de ses biens. Mais il est parti parce qu'il avait de nombreux biens. Comme si la quantité de ce qu'il possédait l'empêchait d'être libre vis-à-vis d'eux et que c'était ses biens qui décidaient à sa place. Comme finalement, ce n'était pas lui qui possédait, mais que ses biens le possédaient. Et Jésus ajoute cette parole qui surprend les disciples, qui est difficile, quasiment impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment comprendre cela? Il y a une mauvaise façon de comprendre ce texte. La mauvaise façon de comprendre ce texte, c'est penser que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se débarrasser de ses biens matériels. Jésus vient d'expliquer qu'il ne faut pas faire, mais qu'il faut être. Et se débarrasser de ses biens matériels, si c'est ce que tout le monde a à faire, finalement, c'est faire quelque chose. Alors, quelle est la bonne façon de comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la vie, pour avoir la vie éternelle, il faut suivre Jésus. Il faut reconnaître son autorité. Il faut être prêt à le suivre, quel que soit le chemin, quel que soit ce qu'il demande. Le problème, c'est que le jeune homme cherchait un maître, un enseignant, quelqu'un qui lui explique quoi faire. Ensuite, c'est son boulot de le mettre en pratique. Mais Jésus n'est pas un maître. Jésus est un Seigneur, quelqu'un à qui on se soumet, quelqu'un qui prend la première place. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne faut pas faire quelque chose, mais être à Jésus, lui appartenir, le suivre, lui obéir. Est-ce plus facile? La réaction des disciples nous montre que non. Et les disciples, ils savent de quoi Jésus parle. Parce que les disciples, ils sont avec lui et ils le suivent. Ils savent que la vie n'est pas facile tous les jours. Ils savent ce que ça coûte de suivre Jésus. Quand ils sont partis, ils ont laissé derrière eux leur travail, ils ont laissé derrière eux leur famille. Certains ont abandonné une maison dans laquelle ils avaient une épouse pour le suivre sur les routes. Et ils savent que, après ce départ initial, il faut lutter encore contre ses propres désirs pour laisser à Jésus la première place. Lutter jour après jour, en soi-même. Et peut-être même que les disciples ne sont pas certains de tenir jusqu'au bout. Et qu'à ce moment-là, ils s'inquiètent. Si un jeune homme riche, béni par Dieu, qui a tout ce qu'il faut, n'est pas capable. Est-ce que moi je suis capable de tenir ? Mais Jésus les rassure. Certes, leurs forces sont limitées et certainement ils n'en sont pas capables, pas plus que ce jeune homme riche. Pour l'homme, ce n'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible pour un riche, ce n'est pas possible pour un pauvre, ce n'est pas possible pour les disciples. Mais pour Dieu, c'est possible. Ce n'est pas possible sur leurs propres efforts, sur leurs propres capacités, sur ce qu'ils mettent en œuvre. Mais Dieu peut rendre ça possible. Il peut transformer la bonne volonté des gens, la décision qu'on prend, et il peut rendre possible cette suite. Qu'est-ce qui vous amène ici, aujourd'hui? Le jeune homme de notre histoire voulait la vie éternelle. Je ne suis pas certain que ce soit la préoccupation principale de notre société. On n'aime pas trop penser à la mort. Et donc, penser à après, ce n'est pas forcément le truc qui est dans nos préoccupations tous les jours. Aujourd'hui, on pense au bien-être immédiat. Je veux la paix que Jésus promet. Je veux la joie que Jésus promet. Je veux les liens fraternels qu'il promet. Un sens à ma vie. La conviction d'être à ma place. Aimer, désirer, ne plus avoir peur. Que faut-il faire pour les avoir ? Peut-être recherchez-vous ces choses promises par Jésus. En tout cas, c'est mon cas. C'est ce que je désire. Mais à travers cette conversation avec un homme bien sous tout rapport, Jésus nous avertit. Ce n'est pas ce que tu peux faire qui te permettra d'avoir ce que tu cherches. Si tu veux la paix, la joie, la fraternité que je promets, si tu veux la vie éternelle, si tu veux entrer dans la vie dès aujourd'hui, alors suis-moi. Et suivre Jésus, comme pour ce jeune homme, ça demandera certainement des sacrifices. Certainement. Jésus ne demande pas la même chose à tout le monde. Mais peut-être me demandera-t-il de sacrifier mes biens matériels. Peut-être ce sera mon confort ou mes loisirs, ces voyages que j'aime tant faire. Peut-être ce sera mon temps. Peut-être ce sera la possibilité d'avoir un conjoint. Peut-être ce sera une famille. Peut-être une carrière. Peut-être autre chose. Mais je crois une chose profondément. C'est que si Jésus le demande, il donnera aussi les moyens de le vivre. Parce que à un homme, il n'est pas possible de le faire. Mais à Dieu, c'est possible. Et c'est lui qui le rend possible. Suis-moi, dit Jésus. Prends cette décision et je transformerai cette décision en fidélité. Et je transformerai ta vie en une vie qui porte du fruit. On peut croire que cette rencontre entre Jésus et le jeune homme riche est un échec. On peut le croire. En même temps, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de ce jeune homme. Nous ne savons pas s'il a réfléchi et qu'il est retourné vers Jésus plus tard. Peu importe, en fait. Ce qui est important, c'est que nous, nous transformions cette rencontre et que nous nous en servions pour comprendre l'enseignement qu'il y a derrière et qui s'adresse à nous. Cette invitation à le rencontrer vraiment, à le suivre et à lui mettre la première place. Pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Amen.